Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Banquette. Ça sera le premier d'une série en 4 volets, le Tour de France des clubs. Et pour ce mois de septembre, on a décidé de vous gâter avec un Banquette par semaine. C'est pas beau ça ? Bon, pour vous expliquer un peu le principe, je vais contacter différents journalistes de presse quotidienne régionale. On parle donc des mecs qui suivent au jour le jour les équipes. Des types qui sont au plus près des joueurs, des coulisses, du stade, du centre d'entraînement, bref, qui connaissent leur sujet sur le bout des doigts. Et pour éviter toute forme de favoritisme, j'ai décidé d'utiliser l'ordre alphabétique. Sur ce premier épisode, on abordera donc les cas d'Amiens, d'Angers, de Bordeaux, de Caen et de Dijon. Je serai accompagné tour à tour de Lionel Herbet, journaliste qui couvre Amiens pour la Gazette Sport, de Quentin Bossé, qui suit Angers pour le Courrier de l'Ouest, de Thierry Vautrat, qui travaille à Sud-Ouest et s'occupe des Girondins de Bordeaux, de Christophe Lecuyer, journaliste à Vire FM et qui suit le Stade Malherbe de Caen, et enfin de Rémi Chevreau, qui couvre l'actualité de Dijon pour le bien public. Pour chaque invité, les questions seront les mêmes et on tentera de savoir comment ils évaluent l'effectif actuel, quels sont les points forts et faibles de l'équipe, ou encore comment ils voient la saison à venir et à quelle place ils pensent terminer au mois de mai. C'est parti pour ce coup de loupe sur chaque club. On va le générique, Eric Prydz.
Régalez-vous. De la chaussure. On reste dans le cadre d'une finale, je n'en veux plus. C'est clair ?
Voilà.
Non, je n'ai pas touché.
C'est déjà deux.
Non.
Et maintenant, on prend la direction de la Picardie pour parler d'Amiens qui vit sa toute première saison en Ligue 1 de son histoire. Et pour parler de du petit poussé, hein, on va dire forcément, de la Ligue 1 2017-2018, je serai accompagné de Lionel Herbet qui couvre Amiens pour Gazette Sport. Bonjour Lionel.
C'est vrai, je suis attaché au club depuis très très longtemps puisque la première fois que j'ai vu Amiens jouer, c'était il y a 60 ans, tout de même. Hein. Et j'étais jeune, et après je suis devenu journaliste au Courrier Bigard. Je suis donc à Amiens avec des péripéties différentes. Et puis quand je suis parti en retraite, j'ai intégré le club pour parler des équipes, pas seulement l'équipe première, sur le site internet. Et puis là, il m'arrive aussi de collaborer pour la Gazette des Sports, mais pas seulement que pour Amiens, aussi pour plein d'autres disciplines.
J'ai vu ça, j'ai suivi un petit peu sur Internet, j'ai vu ça. Qu'est-ce que tu penses de l'effectif actuel d'Amiens ?
Eh bien, l'effectif d'Amiens, il n'était pas le même que celui qui était fin juin à la reprise de l'entraînement. Ouais. Quand Christophe Pelissier a repris l'entraînement fin juin, il y avait un certain nombre de joueurs, des joueurs qui étaient là, dont on pensait qu'ils resteraient, et on s'est, non pas trompé, mais c'est vu comme ça. Donc après, il y a eu le match amicaux, la reprise du championnat, 3 défaites de suite. Hein. Ça, ces 3 défaites qui étaient honorables d'ailleurs, hein, puisque à part une mi-temps contre Angers, les matchs avaient été de qualité pour Amiens, mais il manquait un peu d'expérience. Alors voilà donc ce qu'a imaginé l'entraîneur Christophe Pelissier, c'était de se renforcer, d'avoir des recrues, des renforts. Il l'a dit à chaque conférence de presse après les matchs. Puis là, le mercato, il s'est accéléré. Le club a récupéré des joueurs, notamment le plus connu étant Serge Gatquet, qui a été formé à Monaco. Et puis des joueurs sont arrivés très tard dans le mercato, parce que bien débute en L1, mais a bien pigé les arcanes du mercato, c'est-à-dire que les meilleurs affaires se font parfois juste avant minuit. Hein, c'est arrivé il y a pour rien. Donc 5 nouveaux joueurs, mais par contre, un gros départ, c'est Tanguy Ndombele qui va à Lyon, qui sera prêté une année. C'est un gros départ, mais ça fait partie du football d'aujourd'hui, en sachant qu'on avait aussi perdu Camara il y a environ 3 semaines à moi, qui lui est parti en Angleterre. Donc voilà, c'est un effectif qui me paraît très correct, je pense. Et alors, étant donné en plus la victoire acquise la semaine dernière contre Nice 3-0, moi je l'ai écrit d'ailleurs sur le site du club, si Amiens renouvelait ce genre de prestation, eh bien, il est incontestable que Amiens va se maintenir au Lama. J'en suis convaincu, à la condition de renouveler ce genre de match en déployant autant d'énergie, parce qu'on a une belle équipe, vous savez, hein, une belle équipe qui ces prochaines semaines n'aura plus rien à voir avec celle qui évolue en National et même en L2 l'année dernière, hein, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Hein.
Et l'arrivée qui fait du bien dans toute celle-là, entre Bodmer, Gakpé, Kakuta, Lassina Traoré, Sissoko, etc., pour toi, c'est laquelle? Celle qui fera vraiment la différence?
Kakuta. Et puis, Kakuta. Et avec son expérience, il devrait beaucoup apporter. J'en suis convaincu. Ouais, il devrait beaucoup apporter en attaque, mais peut-être que ce sera un défenseur. Prince Guano, en défense centrale, a été étincelant la semaine dernière. Il a été très très bon, et ce qui explique qu'on n'a pas pris de but depuis. J'étais pas arrivé depuis longtemps. Donc, avec Khaled Adenon, on a trouvé une pierre centrale qui, samedi, à mesure où le coach décide de jouer en 4-4-2, a été tout à fait étincelante. Hein. Donc, on a une belle équipe, en sachant que pour moi, le meilleur, celui qui n'a pas été du tout. Ni contesté, ni menacé, c'est le gardien, Régis Gürtner, parce que si le coach a toujours imaginé dans ses recrues ou renforts, on ne sait pas quel mot il faut choisir, eh bien, on a pensé aux défenseurs, au milieu de terrain et aux attaquants, mais jamais le poste de gardien a été évoqué. Régis Gürtner est incontestablement un des deux ou trois meilleurs gardiens de L1 en ce moment.
Donc ça en fait le joueur le plus important de l'effectif de
Damien. Bien sûr, moi c'est Gürtner, incontestable. D'autant que les dirigeants ont une telle confiance en lui, c'est que René a signé un contrat 5 ans. Donc, voilà. Gürtner, pour moi, c'est le meilleur.
En général, c'est bon signe.
C'est bon signe. Oui. C'est bon aussi.
Et les points forts de l'équipe, pour toi, c'est quoi exactement?
Les points forts de l'équipe, ouais. C'est la solidarité, c'est l'esprit de groupe. Le jour où un mec sortira de cette tactique, il pourra se mettre en évidence, là, ce sera dangereux. Mais je pense qu'il se fera prendre de voler directement par l'entraîneur, Christophe Pelissier, qui prône cet esprit collectif avant tout. On l'a vu samedi. Les Aminois ont déployé, bien sûr, beaucoup d'efforts pour empêcher les Issois de développer leur jeu en faisant un pressing, parce que le pressing, c'est important, mais le pressing, il ne faut pas faire 10 minutes, il faut faire 90 minutes. Et moi, j'ai vu des joueurs complètement rincés, lessivés, comme Prince Guano, qui n'avait plus de voix, ils étaient complètement morts tous les deux, mais ils avaient fait un match extraordinaire. Et surtout, pour la première fois depuis le début du championnat, l'équipe n'avait pas encaissé de but.
Et de l'autre côté, alors, les points faibles, c'est quoi, la défense?
La défense, pas forcément, hein, parce que quand on perd un ballon au milieu de terrain, ça peut être aussi catastrophique. Hein. Donc non, c'est pas...
Oui, non, quand je dis la défense, si, je ne parle pas des quatre forcément c'est derrière, Amiens, je parle de...
C'est l'équipe d'Amiens, elle-même, si elle oublie... d'appliquer ces principes de jeu qui sont la solidarité, l'esprit de groupe, cette envie d'aller de l'avant. Si on oublie ces choses-là, eh bien, Amiens redeviendra une équipe moyenne. Cela étant, je ne fais pas d'illusion, ça va être dur. Hein, je ne dis pas qu'on va être champion, ni même les 10 premiers. Ça va être un championnat très très dur. Hein, je connais assez le football pour savoir que la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. Hein.
Et les ambitions, d'accord, alors, pour la saison à venir, justement, c'est quoi? C'est...
Avant tout, le président, l'entraîneur, c'est le maintien. Hein.
Bien sûr, mais est-ce que c'est quelque chose qui, selon toi...
Peut-être pas bon en Coupe de France, parce que depuis tellement longtemps, on n'est pas bon en Coupe de France. Peut-être que là, ça va aller mieux. Mais sinon, non, c'est le maintien avant tout. Il n'y a pas d'autre objectif. Et puis,
non, bien sûr.
À grandir.
Je me doute bien qu'Amiens ne va pas viser la Ligue des Champions dès la première année. Mais savoir si tu penses que le maintien sera jouable, entre guillemets, facilement. Je mets bien des grands guillemets. Non, c'est pour ça, je mets des guillemets. Mais je veux dire, par exemple, si Amiens se maintient à la 34e, 35e journée, vous êtes serein après derrière. Ou alors, est-ce que tu penses que ça va être très compliqué jusqu'à la dernière seconde de la 38e journée?
On est habitué depuis 3 ans à ce que tout se débloque lors de la dernière journée.
C'est
soit en National pour la L2 ou la L2 pour la L1, avec des buts arrachés derrière seconde, on peut très bien imaginer que ça peut se produire cette année pour le maintien. Non, je pense que cette année, je ne vois pas aujourd'hui. Amiens n'est pas inférieur à Metz, n'est pas inférieur à Dijon, même à Rennes. Hein. Donc, moi, je vois Amiens terminer 13-14e, ce qui serait largement une bonne chose pour le maintien. Et puis, un maintien qui serait acquis assez... Pas rapidement, mais jouer de la fin, ce serait bien. Mais je pense que cette année, ils vont faire aussi. Amiens va faire un truc en Coupe de France. Je vous dis, c'est tellement... le rendez-vous avec la Coupe de France était souvent décevant ces dernières années, avec des éliminations surprises en 32e de finale, même avant, que là, on peut espérer que ça va aller mieux. Ça va aller mieux.
Ben, je leur souhaite.
Merci.
Pour finir, l'anecdote la plus marrante que tu aies vécue depuis que tu suis le club, c'est quoi?
Une anecdote, j'en ai tellement vécu. On est aujourd'hui dans une époque où, quand un joueur signe dans un club, il a été vu plusieurs fois par un entraîneur, par les agents, etc. Donc il n'y a plus de défi de surprise. Moi, je me souviens d'une époque, il y a plus de 40 ans, où un joueur yougoslave est arrivé à Amiens avec une réputation extraordinaire derrière lui. Et ce gars, c'était une supercherie, puisque le lendemain d'entraînement, il était complètement inexistant. Et comme il avait pas mal picolé dans la nuit, il a fini son entraînement à l'hôpital. C'est une affaire qui est authentique, qui remonte à plus de 40 ans. Et l'entraîneur d'Amiens, qui s'appelait André Grillon, qui était quand même pas n'importe qui, avait été mis un petit peu dans cet inconnu, parce que c'était à l'époque le président qui décidait de faire venir oui. tel ou tel joueur. C'était pas du tout comme aujourd'hui. Hein. Le président, il avait décidé que ce Yougoslave, il méritait. Mais il n'y a pas que lui qui s'est fait avoir. Hein. Je me souviens que le grand président de Lille, d'il y a une quarantaine d'années, monsieur Hinault, je crois, avait été aussi blousé par un Hongrois qui s'était fait passer pour un international, alors que c'était complètement faux. Donc, heureusement, ça a disparu, disons. Heureusement.
Oh, heureusement. Mais...
Justement, c'est une anecdote, hein, elle est authentique. Hein.
J'avais fait, dans la première saison de Banquette, Patrice Haddad, donc le président du Red Star, qui me racontait qu'un jour, il avait eu un appel d'un faux Giroud, d'un imitateur de Giroud, qui lui avait conseillé de prendre absolument un Brésilien, etc. Et que le Brésilien, ils avaient été le chercher à l'aéroport, il était venu, et que c'était une supercherie totale, mais que justement, il avait senti un petit peu le truc, mais ils étaient à deux doigts de lui proposer un contrat au début, parce que, soi-disant, Giroud lui avait dit que c'était un joueur extraordinaire, qu'il fallait foncer, et qu'il venait au Red Star pour... qui transitait au Red Star, qui ferait juste une saison ou 6 mois, je ne sais plus, avant de s'envoler par l'Allemagne, mais qu'il fallait qu'il passe d'abord par la France, etc., pour les papiers. Enfin, voilà, il avait été à deux doigts de signer un contrat, un joueur qui n'était absolument pas un joueur. Donc, comme quoi, peut encore arriver.
Il y a presque toujours, parce que le président et l'entraîneur ne sont plus de ce monde, mais c'est marrant. Et puis, comme c'est pas arrivé qu'à Amiens, c'est arrivé aussi à Lille, puis dans d'autres clubs. Mais aujourd'hui, c'est plus possible, heureusement d'ailleurs, heureusement.
C'est un peu plus compliqué.
Heureusement. Et une anecdote, parce que des beaux souvenirs, comme j'en ai des très bons Amiens, et j'ai eu la chance d'avoir de très grands entraîneurs qui sont passés par Amiens. Je pense à André Grillon, à Claude Leroy, Gabi Lemenez, René Marsiglia qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, Denis Troche, qui est le seul entraîneur. Quand il est parti, il a eu le droit à un tour d'honneur à la Licorne. Et puis aujourd'hui, Christophe Pelissier, bien sûr. Hein, donc, il y a des grands messieurs qui sont passés par Amiens. Hein, grands messieurs.
Et pour finir, alors vraiment un mot, je dis bien un mot, pas une phrase, pour définir la saison à venir selon toi.
Apprendre. Celui de l'apprentissage. La saison d'apprentissage.
C'est pas
c'est
mal.
Normal.
Ça colle bien.
C'est normal.
Oui, non, mais ça colle
c'est
très
normal.
Bien. Merci à toi de nous avoir parlé d'Amiens avec, on le sent, une grande passion pour Amiens.
J'ai du reste fait un bouquin. Sur Amiens, les grands mots d'Amiens, depuis 1900 jusqu'à 2008, bien sûr, j'en ferai peut-être un deuxième, je crois.
La mise à jour.
Oui, la mise à jour. Voilà.
Et je l'espère. En tout cas, voilà, merci de nous avoir présenté un petit peu Amiens pour ceux qui n'ont pas forcément vu, pour les auditeurs qui n'ont pas forcément beaucoup vu jouer Amiens. Et puis de nous avoir présenté les forces, les faiblesses, les joueurs, les équipes, etc. Ça a été un grand plaisir, Lionel.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Au plaisir.
Bon, vous l'avez entendu, Lionel voit Amiens finir 13-14e et paraît plus qu'enthousiaste quant à un maintien d'Amiens. Personnellement, je suis plus mesuré. Effectivement, ils ont recruté beaucoup de joueurs qui connaissent un petit peu la Ligue 1 ou le haut niveau, parce qu'il y a Mathieu Bodmer, Serge Gakpé, Gael Kakuta, Lassina Traoré, Sissoko, enfin... C'est vrai que sur le papier, pour un club comme Amiens, c'est beau, mais c'est trop de paris. Et puis, il y a l'expérience d'un club qui fait que Amiens, pour le moment, n'est pas taillé pour la Ligue 1, puisqu'ils n'y ont jamais joué. Et que ça, c'est des petites choses dans le haut niveau qui restent difficiles à récupérer comme ça. Donc malheureusement pour eux, je ne les vois pas finir au-dessus de 19e. Enfin, s'ils finissent 19e, déjà, ce serait entre guillemets pas mal. Après, je leur souhaite de se maintenir, mais pour moi, je pense qu'Amiens finira soit lanterne rouge, soit 19e. Ça va être compliqué avec beaucoup trop de paris dans les arrivées et puis la perte de Dombélé à Lyon qui, je pense, va piquer un petit peu. Et maintenant, on file en direction des Pays de la Loire pour aller découvrir un petit peu ce jeune club en Ligue 1, mais qui réussit plutôt bien jusqu'à maintenant, le club du grand Stéphane Moulin, Angers. Et pour ce faire, je serai accompagné de Quentin Bossé, qui travaille au Corée de l'Ouest. Donc, salut Quentin.
Salut.
Merci déjà d'avoir répondu à l'appel. Ça
merci
fait plaisir. Alors avant de commencer, depuis combien de temps est-ce que tu bosses au Corée de l'Ouest et depuis combien de temps tu suis Angers ?
Alors, 2 ans et 2 ans. Ça fait 2 ans que je bosse pour le courrier. Ça fait 2 ans que je suis le SCO pour le courrier. Après avoir travaillé notamment à Rennes, à Nantes un petit peu. Mais je suis angevin, donc on peut dire que je suis le club depuis un peu plus longtemps que ça quand même.
Non, donc tu connais bien alors, on va dire.
Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce que tu penses de l'effectif actuel du SCO ?
Alors forcément, je vais me baser sur quand même les premiers résultats parce que c'est ça qui révèle des choses. Et bon, l'effectif a l'air de bonne qualité encore cette année, sachant que personnellement j'avais quand même des doutes durant l'été parce que ça a été un mercato plus compliqué que les années précédentes. Quand même, ils ont mis plus de temps à construire cette équipe, on va dire entièrement, parce que Thomas Touré est arrivé de Bordeaux le dernier jour du mercato.
Le soir même, il est arrivé.
Ouais, c'est ça. Donc, sachant que c'était c'était pas une arrivée bonus en plus hein, pour eux, et ça leur est arrivé de faire des coups sur une fin de mercato, tenter un prêt ou quelque chose comme ça. Mais une arrivée c'est-à-dire dont ils avaient vraiment besoin à un poste où ils avaient un vrai manque. Donc, une vraie arrivée indispensable dans la dernière heure du mercato. C'est pas une habitude qu'ils avaient, même en Ligue 2, depuis leur retour en Ligue 1 non plus. Donc voilà, mais là, l'effectif tel qu'il est là semble assez complet finalement. Et on va dire que l'arrivée de Touré change pas mal de choses quand même, parce qu'il a un profil qui risquait de manquer, parce qu'à part Toko et Kambi qui amènent de la vitesse, il n'y a pas énormément de joueurs de côté rapides comme il pouvait avoir l'année dernière, et comme Pépé et Bamba qui sont repartis cet été. Donc je pense que l'effectif est assez homogène, complet, et puis avec de la qualité devant quand même. Ils ont investi quand même comme rarement ils l'ont fait, ou comme jamais ils l'ont fait, même dans le secteur offensif. Donc pour l'instant, ça paraît une fois de plus cohérent dans ce qu'ils ont fait cet été, quoi.
Donc pour toi, dans les quelques arrivées qu'il y a eu cet été, la plus importante ou celle qui fait le plus de bien, c'est Thomas Touré.
C'est celle qui va... Je pense, en fait, c'est par raisonnement un peu alambiqué, mais c'est de se dire que si ce profil de joueur n'était pas arrivé cet été, il aurait vraiment manqué quelque chose. Après, on va voir là, sur cette saison quelle recrue va apporter le plus. Touré n'a pas fait de match officiel encore, mais le fait qu'il soit allé chercher ce joueur-là, ça paraissait quand même indispensable pour avoir de la variété dans le jeu offensif et surtout de la vitesse pour une équipe comme eux qui mise beaucoup sur des transitions rapides, sur de la contre-attaque. Ils avaient des joueurs de qualité, un Fulgini qui arrivait de Ligue 2, mais qui est un bon joueur.
Très bon joueur.
Baptiste Guillaume, c'est un bon joueur aussi en Ligue 2, mais alors d'une part, c'est des joueurs qui ont brillé en Ligue 2, mais pas en Ligue 1 encore. Et en plus, c'est pas des vrais joueurs de profondeur, quoi. Et l'année dernière, le SCO a brillé par ces joueurs-là aussi, comme Pépé, Jonathan Bamba, on disait, Toko et Kambi aussi. Et voilà, par des joueurs qui sont capables d'amener beaucoup de vitesse sur les côtés. Donc là, avec Touré, en plus de Toko et Kambi, je pense que voilà, ils ont trouvé ce qu'il fallait, en tout cas pour le 11 type, quoi.
Et dans le sens inverse, dans les départs qu'il y a eu, lequel fait le plus mal selon toi ?
Je pense quand même que c'est celui de Ndoye, parce que c'était le capitaine et c'était surtout une arme. Une arme redoutable. Même dans le jeu, globalement. Parce que sur coup de pied arrêté, il a brillé en sa première saison. J'avoue que j'ai pas les stats en tête, mais il a marqué beaucoup sur des corners, des coups francs. L'année dernière, pas tant que ça, mais c'est dans le jeu aussi.
Malgré tout, même si
c'est un joueur dominant, quoi.
Je t'ai coupé, malgré tout, même s'il marque pas, il met quand même un petit peu de pression aux défenses adverses quand il est là, parce que voilà, c'est un Golgoth et on est obligé de le marquer. Ça peut, voilà, c'est ça, ça peut libérer des espaces pour les autres. Après, il y a peut-être
Crivelli qui va remplacer. Il prend énormément de place, et même dans l'aspect défensif, hein, sur les coups de pied arrêtés défensifs, c'était le joueur libre toujours, sans marquage, et qui ramassait un nombre de ballons incalculable au premier poteau. Enfin voilà, c'était une arme essentielle. Donc forcément, ça implique un changement de d'animation offensive et défensive pour cette équipe-là. Donc peut-être que ça va pas avoir d'incidence sur en termes comptables, mais forcément que ça a une incidence dans le contenu des matchs du SCO, quoi.
Et dans les joueurs de l'effectif actuel, qui le remplace en tant que joueur le plus important?
Bon, je pense que c'est Mangani, qui était quand même déjà un joueur essentiel et qui l'est d'autant plus maintenant. Il est devenu vice-capitaine. C'est Traoré le capitaine désormais. Mangani vice-capitaine, mais c'est surtout au milieu, c'est la plaque tournante. Je pense pas qu'il va avoir plus d'importance que l'année dernière, mais le fait que Ndoye soit plus là, mécaniquement, ça devient lui le joueur le plus important. La saison dernière, il a fait une première partie de saison moyenne, on va dire, et le SCO était en grande difficulté, ils étaient relégables. Et il a fait une deuxième partie de saison énorme, et il n'y a pas de secret, le SCO, c'est là où le SCO a refait surface, quoi. Donc c'est vraiment un joueur, c'est un joueur qui rend les autres meilleurs et qui rend son équipe meilleure quand il est bien, quoi.
C'est normal, il est formé à Monaco.
Je vois qu'il y a une objectivité.
Toujours avec Monaco. Ouais. Pour toi, les points forts de l'équipe, c'est quoi maintenant, cette année?
Je pense que dans leur idée, ils veulent pas changer de valeur. Et donc du coup, ça va être de la solidarité et un collectif fort, avec toujours une grosse homogénéité, beaucoup de discipline tactique, etc. De toute façon, ils n'ont pas les moyens humains, on va dire, sur le terrain pour faire autrement que comme ça. Il manque quand même, ce qui est logique, hein, vu le budget de ce club-là, ça manque quand même de talent globalement par rapport à d'autres équipes. Donc, ils vont compenser avec ça, forcément. Je pense que là, ils vont garder ce qui est là. Et toujours pareil, une grosse efficacité, une très grosse rapidité dans les phases de transition à la récupération du ballon, pour aller vite vers l'avant. C'est là où ils essaient de s'améliorer, je pense, c'est dans la qualité de ces sorties de balles là, sachant qu'en plus Ndoye est plus là, donc il y a plus trop le moyen d'allonger énormément pour aller chercher la tête d'Ndoye, voire de Diédiou, qui était un gros gabarit aussi en pointe, qui est parti. Donc forcément ces sorties de balles, elles vont peut-être se faire un peu plus au sol, et donc forcément tu prends un peu plus de risques, donc c'est là où ils vont devoir s'améliorer, et peut-être qu'ils vont se trouver aussi une identité là-dedans aussi, quoi, parce que par la force des choses, mais aussi parce que je pense qu'ils ont des joueurs maintenant pour je pense notamment à Fulgini, j'en parlais rapidement tout à l'heure, mais qui est arrivé et qui est un beau technicien,
un bon joueur
de foot, et qui peut apporter là-dedans justement dans la vista un peu les sorties de balle, ce que Mangani a déjà, et que lui peut amener en plus, quoi, à l'intérieur du jeu.
Et donc d'après toi, avec ces transformations d'équipe et de style de jeu un petit peu, qu'est-ce que peut espérer Angers pour la saison à venir?
Ils peuvent espérer si on voit si on veut être très ambitieux du côté du SCO, ils peuvent espérer une première partie de tableau, par exemple. On sait que sortie des 6-7 meilleures équipes françaises, après c'est quand même très homogène, donc si ça se goupille bien, ils peuvent pourquoi pas espérer une 8e place, une 9e place, qui serait déjà très bien. Et puis après, ce qu'ils peuvent raisonnablement espérer, c'est un maintien plus tranquille, on va dire, même si la saison dernière, ils se sont maintenus assez tôt, enfin, ils ont su qu'ils se maintiendraient assez tôt, ils se sont quand même fait peur. La trêve, ils étaient relégables, beaucoup de blessés, des rumeurs de départ, etc. S'ils pouvaient passer une saison un peu plus tranquille globalement, je pense qu'ils s'en satisferaient largement, quoi.
Et pour finir, l'anecdote la plus marrante que tu aies vécue depuis que tu suis le SCO?
Alors, bon, ça fait pas si longtemps. Après, l'avantage de ce club-là, c'est qu'on a quand même un accès au quotidien à l'entraînement. Donc voilà, donc des choses marrantes et tout, on peut les avoir un peu tous les jours, on peut assister à des choses un peu atypiques. Après, je dirais un truc plus marrant, je vais faire mettre en lien avec la finale de Coupe de France la saison dernière. Et en fait, il y a donc un des intendants du club qui s'appelle Petit Claude, surnom, et qui est un genre de mascotte des joueurs là-bas. Et donc, qui a une célèbre moustache. Et donc, ils avaient promis à Petit Claude qu'il lui raserait sa moustache s'il allait en finale de la Coupe de France. Et donc, Petit Claude confiant avait tenu le pari, sauf que de fil en aiguille, ils se sont retrouvés en finale. Et donc, il y a eu toute une cérémonie, un cérémonial. Il y a moyen de retrouver, je pense, des photos sur Twitter où ils avaient installé Petit Claude sur la pelouse du Stade de France la veille du match. Et Romain Thomas, défenseur qui avait procédé à l'ablation de la moustache devant ses coéquipiers, quoi. Donc ça, bon, puis après ça résume bien l'état d'esprit un petit peu de on va dire de ce noyau dur aussi de joueurs. Je pensais à Romain Thomas qui est là depuis la Ligue 2, il y a une espèce d'histoire commune qui se sont créées entre eux depuis la montée et puis cette première saison assez incroyable, et etc. Donc voilà, et puis là, ils avaient décidé de marquer le coup comme ça au Stade de France avec un homme de l'ombre finalement.
Mais c'est une belle anecdote et ça donne justement l'image d'un club familial. Et vraiment pour conclure, si tu peux me donner un mot, j'ai bien dit un mot et pas une phrase, pour définir la saison à venir, ce serait lequel ?
Stabilité, pour à la fois, alors pour expliquer un peu, ce serait dans l'idée, c'est que pour eux, ils visent absolument ces fameux qu'on révolue en Ligue 1. Pour l'histoire des droits télé après qui peuvent augmenter et forcément qui derrière apporte une manne financière nettement plus importante au club. Donc là, ils vont serrer les dents pendant 3 ans pour arriver à ces 5 ans révolus en Ligue 1. Donc je pense que dans leur tête aussi, c'est stabilité à ce niveau-là, quoi.
Bah écoute, ça me va très bien.
Voilà. Je suis ravi.
C'est pas mal. Merci Quentin de nous avoir partagé déjà une belle anecdote et puis ton point de vue d'expert avec ton œil avisé sur le SCO pour découvrir un petit peu mieux, on va dire, les nouvelles forces en présence et voilà, pour pouvoir tabeller sur un maintien plutôt tranquille d'Angers.
On va dire que c'est l'objectif, après on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais bon, je pense que les premiers matchs ont montré une certaine cohérence, donc après... Tu sais au moins aussi bien que moi que le foot, on ne sait jamais ce qui peut se passer.
Bien entendu. Voilà. Mais bon. Espérons alors qu'en j'y reste pour grappiller un petit peu un peu plus d'argent et puis passer devant Strasbourg en budget, parce que là pour l'instant c'est derrière.
Oui, pareil.
Enfin, merci beaucoup Quentin d'avoir participé. Ça a été un plaisir.
Merci à toi.
Et puis, je te dis à très bientôt. Alors, un peu comme Quentin, je partage son avis sur le fait qu'Angers devrait se maintenir. Alors, contrairement à lui, je ne suis pas convaincu par les profils offensifs. Baptiste Guillaume, je ne suis pas fan. Crivelli, où lui devrait mettre sa petite dizaine de buts. Mais ils ont quand même perdu beaucoup de joueurs importants, comme Cherhendoy, Bamba, Pepe, Diédiou, Petrich. Voilà, ça compte dans un club comme Angers. Mais si je les vois se maintenir, et je dirais aller à 14e, 15e place, c'est surtout parce que je vois d'autres équipes plus faibles que le SCO. Donc ce qui permettrait par défaut à Angers de se maintenir plus ou moins tranquillement. Et on file maintenant en direction de Bordeaux, un club cher à Johan Micou, ancien invité. Et pour parler des Girondins, je suis accompagné d'un journaliste de Sud-Ouest qui s'appelle Thierry Vautrat. Donc bonjour Thierry et merci d'avoir répondu présent à l'appel de Banquette.
Bonjour.
Alors avant de commencer, depuis combien de temps est-ce que vous travaillez pour Sud-Ouest et depuis combien de temps est-ce que vous suivez les Girondins exactement ?
Alors pour Sud-Ouest, je travaille depuis 25 ans et je suis les Girondins depuis 20 ans maintenant. Depuis la saison 2016-2017, depuis la saison 96-97.
Oui, donc ça fait un petit moment et vous avez vu plusieurs belles équipes à Bordeaux.
Oui, j'ai vu deux équipes championnes de France, celle de 99 et celle de 2009. J'ai vu quelques victoires en Coupe de la Ligue. C'était 20 années passionnantes, toujours, excitantes, parfois décevantes, comme en 2004 où l'équipe est tout près de descendre. Globalement, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer avec les Girondins.
Et donc, fort de cette expérience, on va dire, avec les Girondins, qu'est-ce que vous pensez de l'effectif actuel ?
L'effectif, il a été bien renforcé, donc il a l'air plutôt, et de façon intelligente, donc il a l'air plutôt pas mal. Je constate surtout que depuis que Jocelyn Gourvennec est arrivé à la tête des Girondins, il a surtout essayé d'injecter du sang neuf. Il a fait partir beaucoup de joueurs en une saison, et on va dire en 12 mois, 13 mois, il a fait partir pas moins de 21 joueurs. L'équipe qui avait commencé la saison avec Willy Sagnol, de l'équipe qui avait commencé la saison avec Willy Sagnol il y a 2 ans, il ne reste plus aucun joueur qui soit titulaire aujourd'hui. Il y a Spézil, mais il n'est plus titulaire. Et voilà, c'est vous dire comment l'équipe a été renforcée. Et il y a eu, alors cet été, il y a eu beaucoup de départs. Il y a eu le départ des joueurs en fin de contrat, comme Carasso, comme Maurice Belet, comme Traoré, mais il y a surtout eu des belles arrivées, des joueurs comme Otavio, des joueurs comme Cafu, un autre Brésilien, et surtout Depréville récemment. Donc l'effectif a l'air pas mal, renforcé de façon intelligente, avec des joueurs de qualité, on présume. Vraiment, on a l'impression que tout est fait pour qu'il y ait un vrai 109, une nouvelle dynamique, on va dire une nouvelle dynamique. J'oubliais qu'ils ont aussi fait venir Benoît Costil. Et donc faire en sorte que cette nouvelle dynamique permette aux Girondins d'obtenir des bons résultats. Moi, je crois que c'est pas trop mal pour l'instant, le recrutement.
Oui, je pense que Bordeaux peut être une bonne surprise cette année. C'est vrai que ça a bien recruté à des postes clés. Et donc, vous parliez vraiment d'une vague de départ importante. Pour vous, quel est le départ qui fait vraiment le plus mal ?
Je ne sais pas s'il y a vraiment de départ qui fasse mal, parce que bon, quand Carasso, on a dit à Carasso qu'on ne le prolongeait pas cette saison, d'aucuns ont dit que c'était un crime de lèse-majesté, que c'était ridicule de laisser partir un joueur de cette valeur. Bon, moi, je ne suis pas persuadé. Costil, c'est pas moins bien que Carasso, et il est plus
bien
jeune.
Sûr.
L'autre départ, peut-être, dont on a pu penser qu'il était problématique, c'était celui de Nicolas Palois. Parce que Nicolas Palois, même si parfois il avait des excès de caractère, de tempérament, hein, qui le conduisait à prendre des cartons rouges, c'était quand même un très très bon joueur, et il était aux portes de l'équipe de France. C'était vraiment un bon défenseur, et on imaginait donc tout ça parce que Gourvennec voulait améliorer sa relance, et donc il a fait descendre tout l'allant en défense centrale, et on imaginait que ça serait problématique. Mais pour l'instant, Jovanovic, le jeune Serbe qui a signé au Girondin cet été, c'est plutôt pas trop mal, et pour l'instant, je pense pas qu'on ait trop à souffrir du départ de Palois. Donc je pense pas qu'il y ait des départs qui aient fait vraiment mal aux Girondins.
Non, bah, tant mieux pour les Girondins, alors.
Disons que, alors peut-être que si, on peut penser que Diego Rolán, qui est parti à Malaga en prêt, qui va être transféré la saison prochaine à la Corogne, manquera aux Girondins. Si c'est le meilleur Diego Rolán, parce qu'il a fait une saison à 15 buts, mais depuis, il plafonne entre 7 et 8 buts. Et donc, on peut présumer qu'un Nicolas Depréville tiendra le même rythme. Donc, je ne suis pas non plus sûr que le départ de Diego Rolán soit aussi un problème.
Oui, Depréville, c'est un bon petit joueur. Et d'après vous, justement, quels sont les points forts de cette nouvelle équipe de Bordeaux ?
A priori, c'est lorsqu'elle a envie de jouer, qu'elle est déterminée. C'est la vitesse d'exécution des ailiers, hein, sur les côtés. Qui permettent beaucoup, qui rentrent, qui bougent beaucoup, qui mettent du mouvement, qui ont de la force de percussion. C'est ça la force principale des Girondins cette année. Hein. Ils ont des joueurs qui peuvent faire mal offensivement et qui sont difficiles à arrêter, difficiles à prévoir. Et voilà, avec eux, ça peut vraiment marcher.
Et à contrario, quels peuvent être les points faibles des Girondins ?
Alors les points faibles, il reste à savoir quelle est l'efficacité réelle de Nicolas Depréville devant, puisque c'est lui qui va jouer. Leur problème, c'est peut-être de ne pas être toujours capable de concrétiser leur supériorité, parce que pour l'instant, les attaquants ont marqué peu de buts quand même. Il y a le but du Camano lors du dernier match qui a été quasiment offert par 3. Il y a le but de Mendy à 3, mais pour le reste, c'est que des milieux de terrain qui ont marqué, notamment Sankaré qui a marqué 3 buts déjà. C'est un peu le problème de savoir comment, le jour où ces milieux de terrain sont bien pris, est-ce qu'il y aura un attaquant qui prendra le relais. Pour l'instant, il est là le problème. Après, il y a sûrement un problème au niveau de l'arrière-gauche, Théo Pelnard. Donc pour l'instant, ils n'ont pas trouvé vraiment un arrière-gauche qui leur convienne. Ils ont joué toute la saison dernière, surtout avec Diego Contento, mais Diego Contento est un peu folklorique. Vous ne savez pas s'il ne va pas jouer avant-centre pendant le match de sa propre décision. Et donc vous ne pouvez pas savoir. Donc cette saison, son début a été catastrophique. Donc c'est Théo Pelnard qui joue, en sachant que Maxime Pungé est considéré comme n'ayant plus le niveau. Et Théo Pelnard, ça reste un peu faible, un peu friable, on va dire. Et donc ça peut être le problème. D'ailleurs, ils ont pris des buts sur ce côté, hein, sur le côté gauche. Les deux buts d'Angers viennent du côté gauche. Donc là, c'est une interrogation. L'autre interrogation qu'on peut avoir, c'est quelle est l'aptitude de Jérémy Toulalan à jouer bien face à des équipes vraiment percutantes. Hein, on a quand même un peu peur que le manque de vitesse de Toulalan soit un problème face à Paris, face à Neymar. Mais aussi face à quelques joueurs de Monaco ou d'autres équipes qui ont des joueurs qui vont vite, hein, le jour où les autres équipes auront compris qu'on joue dans le dos de Toulalan et il faut aller vite, ça peut être problématique. Donc ça, c'est la question que l'on peut se poser. Et je pense qu'a priori, ce sont les seuls points faibles, quoi. Les postes derrière gauche et éventuellement les défenses centrales face à des équipes qui jouent très vite. Après, bon, même si Toulalan est débordé face à son PSG, difficile quand même de mettre 3 points à la colonne PSG-Bordeaux à la fin du mois.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais donc, avec cette problématique, on va dire, de la défense, mais une belle attaque, quelles ambitions vous estimez que les Girondins peuvent légitimement avoir pour la saison à venir ? À quelle place ils peuvent terminer ?
Bon, les deux premières places, je pense pas que ce soit possible. A priori, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. C'est PSG Monaco, ça va quand même être difficile. Après, la troisième, ça me paraît aussi un peu difficile. Je vois bien Lyon finir troisième, encore que les Lyonnais restent sur deux nuls, dont un contre Bordeaux. Si je ne m'abuse, c'est bien ça. Hein. Un contre Bordeaux et un Nantes, non, c'est bien ça. Donc je pense que, a priori, vu la qualité des joueurs de Lyon, a priori, ils devraient pouvoir finir troisième. Après, c'est pas. Les choses restent ouvertes. En tout cas, les Girondins peuvent au moins viser la quatrième place. Je pense que derrière, après, tout est ouvert, hein, entre Saint-Etienne, Marseille, Bordeaux, etc. Je pense qu'il y a quand même vraiment la place pour eux pour finir au minimum quatrième. Et peut-être essayer de viser la troisième place.
Ce qui serait une belle saison. Oui. Pour conclure, est-ce que vous avez une anecdote en tête drôle que vous ayez vécue depuis que vous suivez les Girondins de Bordeaux ?
Oui, la plus drôle, c'est sûrement celle de Nina Savelgic, de Nissa Savelgic, donc on l'appelait Nino. On était allé jouer à Parme en Coupe de l'UEFA une année, et malheureusement, on avait pris 6-0 à Parme. Et le pauvre Nino, à un moment, il arrête le ballon des deux mains en croyant que l'arbitre avait sifflé en pleine surface. Et donc, l'arbitre a évidemment sifflé pénalty et tiré. Et à l'aéroport, il était tellement peu fier de lui qu'il s'était mis sur le tapis des bagages pour partir dans les bagages.
Voilà. Je me rappelais pas de ça, de cette anecdote dans le match.
Si, il avait arrêté le ballon de demain en pleine surface contre Parme. C'est un truc de fou. Alors pour la petite histoire, Nissa Savelgic est aujourd'hui président du club des Girondins de Bordeaux USA, un club féminin à côté de Washington, qui va en temps se développer. Et c'est lui qui a été nommé président il y a quelques semaines de ce club.
Comme quoi, on n'en aura pas tenu trop grief.
Non, c'est une belle réussite.
Et donc pour conclure, en un seul mot que vous pourriez me donner pour définir la saison à venir, ce serait lequel ?
Ambitieuse.
Ça me va, c'est pas mal.
Ouais, c'est ambitieux. Ouais, c'est avec les Girondins, il y a une nouvelle dynamique. Hein, ils ont tout fait pour créer une nouvelle dynamique. Hein, éliminer les anciens joueurs, faire venir de nouveau, insuffler du sang neuf, hein, avec des joueurs prometteurs. Otavio, qui est un très bon joueur. Et donc, ça peut marcher. Ouais.
Bah écoutez, Thierry, merci en tout cas d'avoir répondu présent et puis de vous avoir renseigné un petit peu comme ça sur les Girondins. Puis bah, je vous dis à très bientôt.
À bientôt, oui. Merci. Au revoir.
Non, je l'ai dit, donc je vais le redire. Pour moi, Bordeaux, ça va être l'équipe surprise de la saison. Il y en a une à chaque saison. Voilà, je sens bien Bordeaux qui s'est renforcé avec Depréville, avec Costil. Il y a un milieu solide, sans carré, très bon sur les côtés. Malcolm Camano, c'est pour la Ligue 1, c'est pas dégueulasse du tout. Donc je sais pas, je l'ai. Et puis Gourvenec sur le banc aussi est très bon et fait bien jouer ses équipes. Je sens bien le petit truc en plus qui fera que Bordeaux coiffera au poteau des adversaires comme Lyon ou Marseille qui sont supposément mieux outillés pour se qualifier pour la Ligue des Champions et que Bordeaux leur grillera la politesse.
Et maintenant, on prend la direction du Calvados pour aller parler d'un club qui mérite de toute sa place en Ligue 1 pour une seule et bonne raison, c'est qu'il a permis à Monaco d'avoir Thomas Lemar, et pour ça, que féliciter, le Stade Malherbe de Caen. Pour parler de Caen, donc, je suis accompagné de Christophe Lecuyer, qui est journaliste pour RMC. Bonjour Christophe.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, avant de commencer, depuis combien de temps est-ce que tu travailles pour RMC et depuis combien de temps tu suis le Stade Malherbe ?
Bon, alors déjà, il n'y a pas que Thomas Lemar qui est passé par Caen, il y a N'Golo Kanté aussi, on aime bien le rappeler.
Oui,
quand même,
mais étant supporter monégasque,
je comprends.
N'Golo Kanté, c'est bien, mais ça me concerne moins. Alors que Thomas Lemar, quel joueur ?
Alors, pour répondre à la question, moi, Caen, déjà, c'est pour l'anecdote mon club de cœur depuis tout petit parce que je suis un pur Normand. Donc, j'allais supporter ce club-là étant enfant. Et puis, bien, j'ai eu la chance, je dis bien la chance, après que mon métier me permette de commenter les matchs du Stade Malherbe. Alors, depuis combien de temps ? Depuis une quinzaine d'années déjà, ça ne nous rajeunit pas, puisque je travaille pour une radio locale en Normandie qui est une radio qui suit les matchs du Stade Malherbe de Caen à domicile comme à l'extérieur. Et puis, depuis une dizaine d'années maintenant, je commente également les matchs donc pour RMC sur l'ouest de la France et notamment les matchs du Stade Malherbe. En Normandie, il y a toujours du suspense.
Bon, puisque tu parles de suspense, qu'est-ce que tu penses de l'effectif actuel ? Est-ce que ça peut rejouer l'ascenseur ou cette année ça va ?
Alors, c'est difficile de répondre à cette question comme ça parce qu'en fait, le mercato a été vécu en plusieurs étapes ici en Normandie. Déjà, il faut rappeler quand même que le Stade Malherbe n'a accroché son maintien qu'à l'issue de la 38e et dernière journée de championnat, la saison dernière. Là où on ne les attendait plus, les Canets, puisqu'ils jouaient quand même au Parc des Princes. Alors, avouez qu'il y a mieux quand même pour finir la saison que d'aller chercher un maintien. Le public espérait qu'évidemment les dirigeants en retiennent les leçons et bâtissent une équipe plus compétitive. Sauf que ce mercato, il a commencé d'une manière très étonnante ici à Caen, avec uniquement des départs, des jeunes joueurs prometteurs, ceux de Makengo qui est parti à Nice, Jordan Tell qui est parti à Rennes. Il y en a beaucoup comme ça qui ont quitté le club
Caramo
à l'intersaison.
Aussi, qui a été prêté,
Yann Caramo, évidemment, ça c'est le dernier qui a quitté le navire pour partir du côté de l'Inter Milan. Donc, inutile de dire que ça a beaucoup, beaucoup inquiété les supporters parce que quand vous vous maintenez comme ça à la dernière journée, ça relève presque du miracle et qu'en plus vous perdez des joueurs importants, ça a de quoi vous inquiéter. D'autant que ce mercato a été très, très tardif. Sur les matchs amicaux, Patrice Garande n'avait qu'à peu près la moitié de son recrutement d'effectué. Et puis, il y a les petits derniers qui sont arrivés et qui ont quand même rassuré pas mal de monde, y compris chez les supporters, comme évidemment du côté du staff technique. Alors déjà, le premier qui est arrivé, c'est Alexander Djikou, l'ex-Bastier, défenseur central. Ça, lui, il évolue à un poste clé, parce que l'année dernière, la défense a été souvent pointée du doigt. Damien Da Silva a été tantôt associé à Siam Ben Youssef, tantôt à Léadine Yaya. On a beaucoup tâtonné. Là, l'arrivée de l'ex-Bastier, quand même, permet à Damien Da Silva de trouver un coéquipier solide en défense centrale. Et cette défense, elle rassure d'une manière générale l'équipe. Alors lui, il est arrivé assez tôt dans le mercato. C'est moins le cas des autres, notamment de Frédéric Guilbert, que le public a réclamé. C'est pas si courant finalement que les supporters réclament un joueur. Frédéric Guilbert, prêté par les Girondins de Bordeaux l'année dernière à Caen, il a la particularité d'être normand. Il a été formé au Stade Malherbe. Il n'avait pas été conservé à l'issue de sa formation. Il est parti à Bordeaux où il s'est révélé. Il n'était plus vraiment dans les plans de Jocelyn Gourvennec. Donc cette fois-ci, il a été transféré définitivement en Normandie. Ça a été très apprécié des supporters. Et puis c'est un joueur qui, effectivement, l'année dernière, a rassuré aussi sur le flanc droit de la défense. Et puis, est arrivé récemment, on en a beaucoup entendu parler, c'est Yann Rupas, le joueur de Domžale. Vous savez, c'est le club qui a affronté l'Olympique de Marseille, en Ligue Europa. C'est un joueur qu'on annonce très, très prometteur. Alors, un joueur jeune, une vingtaine d'années, qui n'a pas encore pu jouer sous le maillot rouge et bleu. Donc ça a quand même rassuré les supporters, avec un mercato qui finalement semble assez équilibré, des joueurs qu'on connaît pas forcément beaucoup en France. Maintenant, j'ai envie de dire que la saison cannaise dépendra en grande partie de son attaquant Ivan Santini, le Croate, vous savez, qui avait succédé quand même à...
qui a été bon l'année dernière.
Ouais, exactement, Andy Delors, la succession était difficile de passer à Andy Delors. 15 buts quand même pour le Croate l'année dernière.
Il a surnagé l'année dernière dans l'équipe.
Ouais. Exactement, et maintenant va-t-il être capable de confirmer ? Là, la question, moi je pense que oui, si Ivan Santini effectue une saison convaincante cette année comme la précédente, alors je pense que Caen a nettement les moyens de faire mieux cette année que la saison dernière.
Et au final, donc, dans tous les départs, celui qui fait le plus mal à l'équipe, d'après toi, c'est quoi ? C'est Imoru qui était important dans le vestiaire, Nicolas.
Alors Imoru important dans le vestiaire, oui. Alors je dirais, allez, il y en a. S'il fallait en retenir deux, je dirais Nicolas Seub, parce que Nicolas Seub, c'est un dieu ici en Normandie.
Oui, c'est le gardien du temps.
Sa carrière pro ici, il jouait moins évidemment parce qu'il était en fin de carrière, mais ça, c'était un joueur extrêmement important dans le vestiaire. Donc évidemment, mais c'est un départ. C'est simplement qu'il a raccroché les crampons. Si on devait retenir évidemment un départ, ce serait quand même celui de Yann Caramo, hein, parce que la pépite Canès qui a explosé la saison dernière, mais qui avait des envies d'ailleurs cet été, c'était devenu trop compliqué pour le club canet. Et puis c'était compliqué aussi de résister aux offres financières émanant de certains clubs, dont l'Inter Milan. S'il y avait évidemment un départ à retenir, c'est celui de Yann Caramo. C'est pas tous les jours qu'un joueur canet s'engage quand même avec l'Inter Milan.
Et donc le joueur le plus important de l'effectif actuellement, pour toi, c'est qui ?
Alors, le joueur le plus important de l'effectif aujourd'hui, pour moi, c'est Damien Da Silva, parce que c'est un joueur qui, effectivement, est extrêmement régulier, qui a pu connaître quand même une saison dernière un peu plus délicate. L'ancien Clermontois, je pense, dû en partie, sans vouloir lui enlever toute responsabilité, mais en grande partie au tâtonnement effectué pour lui trouver un compère en défense centrale. Je vous le disais, il a joué avec Ben Youssef, avec Aledine Yaya, etc. Mais c'est un joueur extrêmement important. D'ailleurs, il est devenu cette année vice-capitaine aux côtés de Julien Ferré. Damien Da Silva, c'est un joueur sur lequel Patrice Garande compte énormément sur le terrain comme en dehors. Pour moi, c'est la pièce maîtresse de cet effectif, Damien Da Silva. Il est arrivé à Caen en provenance de Ligue 2. Il s'est affirmé en Ligue 1 au point d'en faire aujourd'hui partie des éléments incontournable.
Et les points forts de cette équipe, c'est quoi ?
Les points forts de cette équipe, moi je pense que, alors évidemment c'est pour moi cette année sa défense centrale qui a pu être décriée l'année dernière. Très honnêtement, on va pas s'enflammer ici, on n'a pas pour l'habitude de s'enflammer en Normandie, mais pour avoir vu quand même les matchs de préparation de cette équipe canaise et les premiers matchs de championnat, Alexander Djikou, Damien Da Silva, sa défense centrale, je pense que c'est pas loin de faire partie de ce qui se fait de mieux en Ligue 1, enfin derrière les grosses écuries, évidemment. Dans le championnat canet, quand je parle du championnat canet, c'est aller, hein, la 8e, 15e place. Je pense que franchement, Djikou Da Silva, permettez-moi l'expression, mais ça a de la gueule. ça, c'est très bon. Je pense aussi qu'effectivement, son arme offensive que constitue Ivan Santini, c'est quand même un élément important et c'est essentiel que Caen ait réussi à conserver ce joueur-là. Pour moi, ça va faire partie des deux armes principales cette saison. J'oublie pas non plus alors l'inconnu aujourd'hui que va constituer l'arrivée du petit Yann Rupas, qu'on annonce comme une petite pépite. On ne sait pas encore exactement comment Patrice Garande va l'utiliser, soit sur un côté, soit en soutien de l'attaquant Ivan Santini. Ça sera la découverte.
Et à contrario, les points faibles de l'équipe, c'est quoi ?
Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y a que des points forts dans cette équipe canaise.
Non, je... Quand on va finir champion alors ?
Évidemment que non, mais comme je dirais pas mal d'équipes peut-être de ce profil, ça peut être la profondeur de banc, parce que, ou plutôt l'absence de profondeur de banc, sans faire injure aux remplaçants, mais quand évidemment ne peut pas compter sur un effectif pléthorique comme Lyon, Monaco ou Paris, mais beaucoup d'autres équipes sont dans ce cas-là. Or, en début de saison, lorsque Patrice Garande a été confronté à des blessures qui se sont enchaînées les unes aux autres, on a tout de suite vu que bien il a fallu faire appel à des jeunes du centre de formation.
Et justement, tu parlais du championnat canet qui va de la 8e à la 15e place. D'après toi, cette saison, est-ce que ça peut se terminer plus proche de la 8e ou plus proche de la 15e place ? Comment tu vois les choses se passer ?
Moi, aujourd'hui, je pense que cette équipe, sa place, elle est... je pense mieux que la 15e. Franchement, je pense mieux que la 15e. Mieux que la 8e, évidemment, non. Moi, cette équipe, je la vois finir très honnêtement dans le ventre mou. Allez, je vais me mouiller un petit peu. Surtout par les temps qui courent en Normandie, entre la 10e et la 12e.
Pour finir, l'anecdote la plus marrante que tu aies vécue depuis que tu suis le club, c'est quoi ?
Je sais pas si c'est une anecdote marrante. En tout cas, je pense franchement que sur les dernières années, si je devais en retenir une, c'est il y a un an et demi. On est au mois de décembre, c'est la trêve, Caen est dernier. Et Caen se retrouve embarqué dans une affaire de match présumé corrompu, vous vous en souvenez probablement.
Ouais. Avec les caisses de vin.
Exactement, les caisses de vin qui auraient circulé dans les couloirs pour évidemment permettre et au Canet... de terminer leur championnat en toute sérénité. Onimois aussi, c'est un résultat qui a arrangé tout le monde. Bref, Caen est embarqué dans cette histoire, Caen est dernier de Ligue 1, et là, il se passe l'incroyable. Caen fait une deuxième moitié de saison en tout point fantastique, au point de raccrocher la moitié de tableau. Le seul qui y croyait à l'époque, faut avoir le mérite de le dire, c'est Xavier Gravelaine, qui à la fin de la saison nous avait dit, vous inquiétez pas, moi je continue de penser qu'on se maintiendra. Patrice Garande aussi d'ailleurs, l'entraîneur canet. Eh bien, faut savoir leur reconnaître ça, c'est que je pense qu'ils étaient les seuls, alors peut-être à se forcer à y croire à l'époque, mais en tout cas, cette deuxième moitié de saison, avec cette affaire judiciaire, plus les ennuis sportifs qui se profilaient, personne n'aurait pensé Caen capable de redresser la barre de cette façon, et Caen a finalement effectué une deuxième moitié de saison en tout point remarquable.
Et vraiment, pour conclure, si tu peux me donner un mot pour définir la saison à venir, c'est quoi ?
La saison à venir, moi je dirais reconstruction quand même, reconstruction côté Canet, parce que encore une fois cette saison passée, elle a laissé beaucoup de traces aussi en interne. Tout le monde l'a mal vécu, les supporters, je le disais tout à l'heure, les joueurs évidemment, c'est les premiers concernés, le staff qui a été rigoureusement décrié par les supporters qui cet été ont demandé le départ de Patrice Garande. Ça a laissé beaucoup de traces cette saison dernière. Donc cette année, il faut reconstruire et repartir de l'avant. Voilà.
Bah, je vais faire une Paganelli et je vais dire, on vous le souhaite. Vraiment. Bah, écoute, en tout cas, Christophe, merci beaucoup d'avoir participé à ce Tour de France des clubs, de nous avoir expliqué un petit peu comment ça se passe à Caen, d'avoir fait une petite revue d'effectifs avec les forces en présence, les petits points faibles, même s'il n'y en a pas beaucoup, hein, comme j'ai bien compris au Stade Malherbe.
Ça fut un plaisir, en tout cas.
Mais plaisir partagé, vraiment. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt.
Merci à vous. Belle saison et à très bientôt. Merci.
Pareillement. Et maintenant, on file en direction de Dijon, la terre de Baptiste Reynet, hein, que je vous rappelle, on a eu dans Banquette. Et si ça n'a pas encore été fait, je vous invite à aller écouter l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 qui nous explique un petit peu comment fonctionne le poste de gardien. Et pour parler donc du DFCO, je serai accompagné de Rémi Chevreau qui travaille pour Le Bien Public. Salut Rémi.
Salut.
Comment ça va ?
Très bien, très bien. Un petit peu chargé ces derniers temps avec la fin du mercato, mais c'est passé, donc ça va.
Ouais, c'est bien. Tant mieux. Avant de commencer, depuis combien de temps est-ce que tu travailles pour Le Bien Public et depuis combien de temps tu suis Dijon ?
J'entame ma troisième saison là au Bien Public et j'ai tout de suite commencé en couvrant le DFCO, donc ça fait 3 ans. Ça fait ma troisième année.
Et en plus, ça t'a permis de faire un petit peu de télé, parce que si je dis pas de bêtises, t'étais passé dans un sujet sur J+1, non ?
Vous êtes bien renseigné.
Je l'avais
exactement.
Vu.
On a fait avec mon collègue en déplacement, ils nous ont suivi, je crois que c'était sur la dernière journée à Toulouse, l'an dernier, ouais. Exact.
Ouais, ou de mémoire, Baptiste, Rudy, et je sais pas, etc. etc. Ouais, qu'est-ce que tu crois ? Je suis un petit peu.
C'est ça, je vois ça. Je vois ça.
Bon, qu'est-ce que tu penses de l'effectif actuel de Dijon ?
Écoute, tu m'aurais posé cette question hier, je t'aurais peut-être pas répondu comme je vais te répondre là. ça s'est bien renforcé sur les dernières 24 heures, en prenant deux bons joueurs en prêt, Dilo Bodji et Xeka, qui a montré des belles choses avec Lille sur la deuxième partie de saison. Je pense que c'est un effectif qui a perdu quand même des gros atouts cet été, avec Diony, Lesmelo notamment, et qui a su un petit peu compenser par autrement, avec des joueurs techniques devant, des joueurs créatifs, comme des Saïd, des Slity, l'émergence de Kohn, je pense, cette saison. Et puis derrière, la défense, c'était un des chantiers cet été, ils ont pris 3 défenseurs, hein. Il y avait Lotoa, ça il s'est blessé, Yambéré qui a amené un peu de puissance physique, et puis hier, Dilo Bodji.
Oui, histoire de couvrir un petit peu Baptiste Reynet, qui n'a pas tout faire tout seul non plus tout le temps.
Non, ouais, c'est ça. L'an dernier, il fait une très très grosse saison. Ouais. On l'a souvent vu à l'œuvre. Il a souvent sauvé la passée, comme on pourrait dire. Mais non. C'est vrai que c'était une des priorités de la cellule de recrutement du DCO cette année, de renforcer la défense.
Et donc le départ qui fait vraiment mal pour toi, c'est plutôt Diony ou Lesmelo ?
Forcément en termes de stats, Diony, parce que il avait fini meilleur buteur ces 2 dernières saisons. L'an dernier, c'est également meilleur passeur. Puis il s'entendait vraiment très bien avec Julio Tavares sur le front de l'attaque. Donc c'est vrai que ça fait mal. Mais Lesmelo, c'était aussi c'est quand même le troisième buteur. C'est un joueur qui apportait dans le jeu. Donc les deux cumulés, c'était vraiment deux grosses pertes quand même. Donc le plus mal, si on prend que le niveau statistique, Diony.
Et à contrario, si tu dois choisir vraiment un joueur qui fait vraiment du bien à l'équipe.
L'an dernier, il y en a un qui a fait une énorme saison, au-delà des stats, hein, c'est Mehdi Abed, qui a imposé tout de suite en tant que métronome au milieu de terrain, par son abattage, par la qualité de ses passes, par la récupération, tout ça. Et on ne l'a pas encore vu cette saison parce qu'il est blessé au genou depuis maintenant, depuis la fin de saison dernière. Donc ce joueur-là, quand il va revenir de blessure, il va vraiment être très très important. Je pense qu'un Tavares, pareil, qui a beaucoup été blessé cette saison, va énormément apporter. Et puis ouais, voilà, c'est peut-être les deux gros morceaux, les deux joueurs importants du dispositif dijonnais. Ouais.
Et les points forts, alors, les points forts ou le point fort de l'équipe, c'est quoi pour toi ?
Le jeu. C'est une équipe qui a tout le temps été louée depuis que je la suis. Hein, déjà en Ligue 2, ça jouait de balle au pied, ça ressortait proprement, ça combinait. L'an dernier, on l'a vu, même contre les gros morceaux, ils s'attelaient à jouer, à faire du jeu. Peut-être parfois trop même. Hein. Des fois, c'est une équipe qui est trop joueuse, qui oublie de défendre. Mais ouais, c'est cette volonté de vouloir jouer. Et là, quand on voit les profils des joueurs, des Sneaky qui a été recruté, ou alors un joueur comme Saïd, c'est des joueurs qui sont techniques, qui vont vite, qui vont vers l'avant. Tu peux les associer à un Kohn qui va, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va se révéler, ça va vite aussi. C'est une équipe qui se crée tout le temps des occasions finalement. Ça se crée tout le temps ou qui est souvent dangereuse. Donc c'est ce côté-là qui est à mettre en avant.
Et à contrario, les points faibles?
Juste là, ça a été la défense. Hein. On a 3 buts pris à Marseille, 4 après contre Monaco. Bon, ils ont pris beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. C'est ce secteur-là qui a souvent été décrié et c'est pour ça qu'ils ont fait. Ils en ont fait une de leurs priorités sur le mercato cet été.
Ouais, c'est vrai que l'année dernière, Dijon finit 16e défense alors que c'est la 8e attaque. Donc,
c'est ça, exactement.
Il y a quand même une petite différence. Mais après aussi, l'année dernière, il y avait des petits soucis à domicile. Autant à l'extérieur, ça passait. Mais
non,
à domicile.
Ouais, domicile. Non,
Dijon
non,
finit en fait, 18e au final à domicile.
Ouais, mais quand tu regardes à l'extérieur, il n'y a qu'une victoire.
Ouais, mais après, c'était.
Non, à domicile, au contraire, ils ont quand même. T'es sûr de la stade 18e?
Ouais.
J'avais pas souvenir. J'oublie d'une année sur l'autre.
Tu es pareil, je t'avoue que j'ai été vérifié, hein, sinon.
Ouais, j'imagine bien. Honnêtement, c'est plutôt à l'extérieur où ils ont été chercher, ils ont galéré. C'est à part la victoire à Lorient, ils sont souvent revenus avec des défaites ou des défaites dans les dernières secondes. Je me souviens d'un match qui me vient comme ça à l'esprit, c'est celui de Bordeaux où tu mènes 2-1 à la 87e et tu perds 3-2. Alors que les succès, ils ont été les chercher ici, à Gaston-Gérard, hein, à Dijon. Même si apparemment, ils sont que 18e à domicile.
Après, il y a eu tellement d'équipes fortes à domicile aussi l'année dernière que
ouais.
Mécaniquement. Et d'après toi, c'est quoi les ambitions que peut avoir
Dijon ? Le maintien, dans un premier temps, de toute façon, ils ne visent pas autre chose que le maintien. Voilà, c'est un des plus petits budgets, même s'il a été augmenté, il est passé de 26 à 32 millions cet été.
Ouais, c'est le 14e.
14e, putain, ouais. Il y en a qui sont encore en dessous.
Ah, il y en a quelques-uns, ouais.
C'est qui en dessous? Ça va bien, j'imagine, 3.
Guingamp et 3 sont à 26.
Ouais.
Qu'est-ce que tu as en dessous d'autres? Amiens, oui, forcément, est en dessous. Caen, c'est la même chose. C'est 32 ouais. millions aussi.
D'accord.
Qu'est-ce ouais. qu'on a fait, qu'on a fait le tour.
Ouais, d'accord. Ouais, non, donc en tout cas, là, c'est le maintien. Faut pas oublier que c'est que la troisième saison du DCO à ce niveau-là. Donc, puis l'an dernier, ils l'ont assuré qu'à la dernière journée. Donc là, ils vont essayer de se maintenir plus tôt que l'année dernière, ça serait bien. Et puis après, si jamais ça rigole, peut-être essayer de grappiller quelques places. Mais l'objectif numéro un, celui qui est annoncé, affiché par les dirigeants, c'est le maintien.
Est-ce que tu penses que c'est vraiment jouable ou que ça va être compliqué jusqu'au bout, comme l'année dernière ?
Ouais, ça risque de jouer encore jusqu'au bout, mais c'est une équipe qui a les qualités pour pouvoir y arriver. Ouais. Non, je pense que c'est jouable. Heureusement, sinon la saison elle sera déjà longue.
C'est sûr. Alors pour finir, l'anecdote la plus marrante que tu aies vécue depuis que tu suis le club, c'est quoi ?
L'anecdote la plus marrante une fois, c'est un club qui est quand même très familial. C'est un club où dans d'autres, il y a des barrières, tout ça. Et puis, c'est pas marrant, mais c'est le côté, c'est un club qui a su rester humain et... Quand on échange avec les autres journalistes, ils sont un petit peu envieux de notre façon de travailler avec le club, où on a très peu de refus d'interview, où on est souvent au centre d'entraînement, où on peut faire quasiment toutes les interviews qu'on demande. Donc c'est un club qui a su rester humain dans ce côté Ligue 1. Après, un truc marrant, tu me demandes marrant, c'est pas marrant ce que je te dis, mais marrant, je sais pas. Il y a des trucs lourds, tu sais, en déplacement, on entend tout le temps et la moutarde. C'est le côté un peu relou. Côté marrant, non, là, comme ça, il y a rien qui me vient à l'idée.
C'est pas grave, ça me va. Et vraiment, ouais. Pour conclure, un mot, j'ai bien un seul mot pour définir la saison à venir d'après toi. C'est quoi?
Pas compliqué, c'est pas le terme. Longue, parce que le maintien, il faudra aller le chercher jusqu'au bout, je pense, comme on a dit tout à l'heure. Donc ça peut être long, ça va être serré. Voilà, serré.
Et bon, on prend serré alors.
Voilà.
Ça me va très bien. Écoute Rémi, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de voir un petit peu comment ça se passe à Dijon. Pour les gens qui suivent pas trop Dijon, qui n'ont pas trop regardé, bah voilà, de connaître un petit peu mieux les points forts, les points faibles de l'équipe, de savoir que ça joue, parce qu'effectivement, c'est une équipe qui est très joueuse. Et ça, on peut féliciter Olivier Dalloglio de
faire ça. C'est clairement sa philosophie. Mais bon, par contre, cette année, il a prévenu ses joueurs. Hein, si ça joue, mais que derrière, il y a des problèmes défensifs, cette année, ils ne prendront pas les mêmes risques.
Oui, c'est un peu mieux. Mais c'est plaisant à voir. Toi, par exemple, l'année dernière, il y avait le fameux match contre Lyon qui était magnifique à voir. Et voilà, donc bah, écoute, merci beaucoup d'avoir participé à ce spécial Tour de France des clubs de banquette. Et puis, à très bientôt.
À bientôt, au revoir.
Alors, comme l'a dit Rémi, personnellement, je pense que pour Dijon, ça va être un petit peu compliqué. J'ai envie qu'ils sauvent parce que forcément, voilà, maintenant à force, vous le savez, j'ai un petit peu de tendresse pour Baptiste Reynet qu'on avait eu dans Banquette et que je trouve que c'est un gardien vraiment qui est très très bon. Donc j'aimerais qu'il se sauve, mais voilà, on l'a dit, défensivement, c'était très compliqué. Et puis, voilà, personnellement, je suis pas super convaincu par Djilo Bodji. Et puis devant, bah, Diony et Les Melou, ça a été deux très grosses pertes qui vont, je pense, après je me trompe peut-être, être difficiles à compenser. Et voilà, je pense que ça sera compliqué jusqu'au bout pour Dijon. Mais je leur souhaite de finir 17e, 16e pour se maintenir tranquillement. Voilà. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, donc ainsi s'achève ce premier épisode du Tour de France des clubs. Donc je remercie chaleureusement Lionel Herbet, Quentin Bossé, Thierry Vautra, Christophe Lécuyer et enfin Rémi Chevreau de nous avoir accordé un petit peu de temps et de nous avoir donné quelques billes hein, sur les saisons de leurs clubs respectifs, savoir un petit peu comment ça va se passer. Et on verra donc tous les clubs dans les différentes émissions. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et merci encore une fois, un immense merci pour tous les messages de soutien, toutes ces belles choses que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Un grand merci également à Julien Neuville et Laura Cuissard à la production et la programmation, à Aurore Maillemeyer à la réalisation sonore et au duo Mehari pour le générique original. Alors n'oubliez pas, si vous aimez Banquette, je vous invite à en parler à un ami, lui dire très exactement ce qui vous plaît dans ce programme, à part moi, hein, bien entendu, et lui partager le lien pour qu'il puisse l'écouter tout seul. Vous pouvez même le faire directement par téléphone si vous avez un iPhone, avec l'appli podcast d'Apple. Alors, petit tuto, quand vous êtes sur la page de Banquette, en haut à droite, vous verrez, vous avez un petit carré avec une flèche qui va vers le haut. Et bien, en cliquant dessus, c'est magique, vous allez le voir, vous pouvez envoyer la page directement par SMS ou mail. Ou alors, vous pouvez copier le lien et le transférer par l'application que vous voulez, hein, je sais pas, Snapchat, puisqu'il y a des jeunes qui nous écoutent, WhatsApp, toutes ces petites choses de messagerie, donc faites-vous plaisir. Alors, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, n'oubliez pas, ce mois de septembre va être très chargé, puisqu'on se retrouve non pas dans deux semaines, mais dans une semaine. Ah là, et oui, en septembre, on va être là tout le temps, je vais être dans vos oreilles du début à la fin du mois de septembre. Mais d'ici jeudi prochain, je vous laisse tranquille. Donc merci encore une fois à toutes et à tous. Je vous dis à très très vite. Je vous fais des bisous, Dagemounegou, et vive David Trezeguet.